Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Quelle issue au conflit qui ensanglante les deux régions anglophones du Cameroun depuis bientôt 3 ans? On en parle ensemble durant les 20 prochaines minutes, d'autant que mardi soir, en s'adressant à la nation, le président Paul Biya a annoncé la tenue fin septembre d'un grand dialogue national. Ce sont ses propres mots, un grand dialogue national sans exclusive qui devrait rassembler les différentes composantes sociales, y compris des représentants des forces de défense et de sécurité, ainsi que des représentants des groupes armés. L'objectif, a déclaré Paul Biya, est de répondre aux aspirations profondes des populations de la zone anglophone, tout en soulignant que leur avenir se trouve au sein de la République. Le Cameroun restera un et indivisible, a-t-il affirmé. Alors comment, imaginez-vous, ce dialogue national? Comment créer les conditions à un retour à la paix dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, ces deux régions qui sont donc le théâtre de combats quasi quotidiens entre les séparatistes et l'armée? 33 9 693 693 70. Évidemment, comme tous les matins, je lirai quelques-uns de vos commentaires postés sur Facebook et envoyés sur la page, sur le WhatsApp d'Appel sur l'actualité. Allez, je commence avec ceux qui nous ont envoyé quelques commentaires. Il y a par exemple Patrick qui est à Douala et qui trouve que l'appel au dialogue lancé par le président Paul Biya est salutaire. Une partie des Camerounais le réclamait. Alliance, qui est à Yaoundé, nous dit que depuis octobre 2016, la société civile, les partis politiques, les prélats, les organisations internationales, les hommes d'affaires, la diaspora, tous réclamaient à corps et à cri ce fameux dialogue. Si le président avait écouté son peuple, nous dit Alliance, le bilan ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Je rappelle le bilan communiqué par l'ONG Human Rights Watch. Plus de 2000 morts, 2000 morts ces 3 dernières années dans ces deux régions anglophones. Joseph, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous ne croyez pas à ce dialogue national?
Oui, Juan, même si, comme tout le monde, on dit qu'il a bien fait d'annoncer qu'il y aura un dialogue. Je suis sceptique quant à l'issue d'une telle entreprise pour 2 raisons. La première raison, c'est que, à mon avis, c'est, les délais sont trop courts. On ne peut pas, n'est-ce pas, pour une question anglophone qui a induit une situation sociopolitique qui est en déliquescence au Cameroun, penser qu'en 20 jours, on puisse mettre en place un dialogue qui va résoudre tous les problèmes. Parce que les anglophones ont dit que tout haut, ce que la quasi-totalité des Camerounais pensent tout bas. Et puis la deuxième raison, c'est...
Enfin, en même temps, quand vous parlez des anglophones, il y a de tout dans le discours des anglophones. Il y a ceux qui réclament davantage de droits parce qu'ils s'estiment marginalisés, et puis il y a les plus radicaux qui réclament l'indépendance.
Oui, justement, je voulais y arriver, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va faire, n'est-ce pas, un dialogue sur la question anglophone, en oubliant que cette question anglophone a été mise à jour par un groupe d'individus qui sont aujourd'hui privés de liberté. Avec qui va-t-on faire le dialogue? Si on met sur la touche ceux qui étaient comme la tête pensante du mouvement anglophone.
Vous faites référence notamment à Julius Ayuk Tabe, qui a été condamné à la prison à vie il y a moins de 3 semaines, avec 9 de ses partisans. Il n'est pas possible d'aller au dialogue tant que le leader des séparatistes est en prison, c'est ce que vous dites?
C'est exactement ce que je pense. Parce que c'est celui-là qui est à peu près, qui incarne à peu près l'idéologie, n'est-ce pas, de la question anglophone au Cameroun.
Donc vous êtes sceptique, vous n'y croyez pas?
Je suis sceptique, j'attends voir, parce que j'ai l'impression, ou bien j'ai le sentiment qu'on va droit dans un mur, Juan. Ouais. La solution ne se trouve pas dans un dialogue, dit-on, inclusif, tu vois, exclure d'autres personnes. À mon sens, on aurait dû penser d'avoir l'élargissement de ceux qui sont concernés par cette question anglophone et qui ont perdu leur liberté, et de voir quel sera le contenu du dialogue et lancer le dialogue après, pas avant.
Ouais. En même temps, ça fait 3 ans hein, que des voix s'élèvent pour exiger la tenue d'un dialogue. Merci Joseph, bonne journée à Douala. Willy, vous êtes à Yaoundé, soyez le bienvenu.
Oui, bonjour Juan, et merci de me passer à votre antenne.
C'est normal. Vous partagez l'analyse de Joseph?
Pas du tout. Moi, je suis plutôt optimiste d'entrée de jeu, et je pense que aux critiques qui ont souvent été faites à l'intention du président de la République qui n'écoutait pas les Camerounais, je suis pas du tout de cet avis non plus. Le président de la République a toujours écouté. Il a attendu. Il a même dit une fois, lorsqu'il était à l'ONU, qu'il était mendiant de la paix. Si vous êtes mendiant de la paix, vous ne pouvez que accepter le dialogue.
Oui. Enfin, alors, s'il est mendiant de la paix, effectivement, il a tenu ses propos, c'était il y a bientôt 2 ans, devant l'Assemblée générale des Nations unies, pourquoi ne pas avoir, depuis, organisé un dialogue national? Pourquoi attendre le début du mois de septembre pour une telle annonce?
Comme vous le savez, la plupart de ces responsables étaient dans le boisseau. On ne pouvait pas dialoguer avec ceux qui tuaient les Camerounais. On ne pouvait pas dialoguer avec sans avoir identifié les personnes. Et vous saviez bien qu'il a fallu qu'on mette d'abord la main sur un certain nombre de ces sécessionnistes ou alors de ces acteurs pour qu'ensemble on puisse davantage connaître le problème. Parce qu'il faut toujours se dire que le problème est parti d'une revendication syndicale normale dont les solutions ont été trouvées. Mais le problème s'est par la suite agrandi par le fait de l'extrémisme de certaines personnes.
Oui, alors quand vous dites le problème, il y a plusieurs problèmes. Il y a eu effectivement cette crise qui a commencé il y a 3 ans avec essentiellement des revendications d'enseignants, de juristes, etc. Mais le problème, je reprends vos termes, le problème anglophone existe depuis bien plus longtemps. Ça fait des décennies que les anglophones se disent marginalisés, dénoncent ne pas bénéficier des mêmes richesses que le reste du pays. Il y a quand même un sentiment d'injustice au sein des anglophones camerounais.
Monsieur Juan, c'est un sentiment. Et quand vous avez ce sentiment, effectivement, il faut le prendre en considération et observer. Mais il y a aussi le passé. Si vous regardez bien, depuis 1992, tous les premiers ministres de la République viennent de cette région-là. Et quand vous savez...
Excusez-moi, il y a eu un klaxon. Excusez-moi, Willy, ça a klaxonné derrière vous. Donc je n'ai pas bien compris. Vous disiez depuis 1992, tous les premiers ministres...
Tous les premiers ministres sont de cette région-là, du Nord.
Ils sont anglophones, oui, d'accord.
Ils sont anglophones. Et c'est pas les seuls ministères. Au ministère des Relations extérieures, et plusieurs autres ministres sont de cette région-là.
Mais vous savez bien que certains disent le fait de nommer un premier ministre anglophone, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Donc vous parliez de sentiments. Donc cette marginalisation, elle n'est pas réelle à vous entendre. Je résume un peu votre pensée. Je ne la transforme pas, Willy.
Je peux vous dire que toutes les régions du Cameroun sont moquées.
Oui.
Toutes les régions du Cameroun, les Bamileke sont moquées, les Aoussa sont moquées, les Etones sont moquées. Mm. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont marginalisés.
Alors, moi, Willy, je vous interromps. Vous allez pouvoir dialoguer, si vous le souhaitez, évidemment, avec Gilbert. Je vois que nous avons Gilbert qui est à Limbé, justement, en zone anglophone, dans le sud-ouest du pays. Bonjour Gilbert.
Bonjour Juan, bonjour à tous les RFI.
Cette marginalisation dont on parlait à l'instant avec Willy, c'est un sentiment ou c'est une réalité pour vous qui êtes sur place?
Mais quand j'écoute Willy, vraiment, je suis vraiment déçu parce que même ce qui parle des premiers ministres depuis 92 qui sont anglophones, ça a été obtenu d'une haute lutte. C'est pas un cadeau que le président a fait aux anglophones. Il y avait des mois et des mois à Bamenda, à Limbé, un peu partout dans les zones anglophones, pour qu'on en arrive là. Donc vraiment, je vais balayer ça du revers de la main pour dire que ce discours était juste un discours politicien adressé à la communauté internationale, parce qu'on sait, le chef d'État sait qu'il va se rendre à l'ONU et il va faire face à des protestations et des questions de part des partenaires internationaux. Et il fait ce discours à la veille, quelques jours, quelques semaines, avant son départ, juste pour apaiser et un peu enlever un peu de pression sur lui.
Ouais. Vous faites référence à l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient tous les ans courant septembre, et effectivement, je crois que c'est mardi ou mercredi prochain que s'ouvre l'Assemblée générale de l'ONU. Et donc, pour vous, il y a forcément un lien de cause à effet. Le président fait cette annonce de dialogue national inclusif avant d'aller à l'ONU et de rencontrer donc effectivement le reste de la communauté internationale qui fait pression effectivement pour qu'il y ait un dialogue.
Absolument, absolument. Parce que s'il tenait au dialogue, il ne devait pas laisser autant de villages être brûlés, autant de déplacés, autant de personnes assassinées, autant de personnes sans abri. Et comme je vous, en vous parlant à ce moment, j'ai une petite sœur dont je n'ai pas de ces nouvelles depuis au moins 1 an aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui est devenu de son sort avec son mari. Je ne sais pas. Donc, oui. Comment est-ce qu'on peut penser qu'il veut vraiment le dialogue dans ce genre de conditions? Et en plus, les leaders, ceux qui étaient à la tête du mouvement, sont toujours incarcérés. Et il va causer, on va faire le dialogue avec qui? Et comment est-ce qu'on peut placer un tel dialogue sous l'égide du gouvernement? Il faut un médiateur international, ne serait-ce que pour montrer un peu de sincérité.
Moi, oui. Et là, évidemment, c'est le Premier ministre qui va diriger ce dialogue national. Vous, vous auriez souhaité une médiation donc internationale. Merci Gilbert de cette réaction. Un détour sur la page Facebook et sur WhatsApp. Il serait maladroit de centrer le dialogue national sur la crise anglophone, nous dit Eric à Yaoundé. Cette crise n'est qu'un bout de l'iceberg avec les revendications anglophones, car les revendications anglophones sont celles de tous les Camerounais. Manuel affirme au contraire que le discours du président mardi soir était un discours juste, d'une forte densité politique. Le grand débat national sera une opportunité pour nos compatriotes d'expression anglaise de présenter dans un cadre républicain leurs revendications de manière exhaustive, affirme Manuel. Sorel, vous êtes à Douala, bonjour.
Bonjour Juan.
C'est un discours.
Très heureux de vous avoir sur les antennes.
Eh bien, c'est moi qui suis très heureux de dialoguer avec vous. Vous êtes à Douala, donc au Cameroun. Vous avez, j'imagine, comme de très nombreux Camerounais, suivi en direct à la télévision le discours mardi soir du président Paul Biya. Qu'en avez-vous pensé?
Oui, effectivement, Juan. C'est une décision courageuse et salutaire pour ce dialogue à venir. Mais je pense que c'est un enfumage. C'est purement du dilatoire, parce qu'à l'issue, n'est-ce pas, dans ce dialogue, rien de concret, rien n'est pas dans le sujet, n'est-ce pas, dans le feu, décidera, n'est-ce pas, de poursuivra, n'est-ce pas, pour les Camerounais. Imaginez-vous, nous sommes, ce dialogue qui se tiendra d'ici la fin du mois, comme le veut le chef de l'État, est ce que j'appellerais, n'est-ce pas, dans une tripartite 2. C'est-à-dire, n'est-ce pas, la tripartite, n'est-ce pas, c'est un consortium gouvernement, opposition et société civile, qui a été organisé, n'est-ce pas, en 1991.
Oui.
Et à l'issue de cette tripartite, il avait été décidé, n'est-ce pas, donc, d'aller vers un code électoral consensuel. Ce qui n'a pas été fait, il avait été décidé, n'est-ce pas, donc, d'aller, n'est-ce pas, donc, vers, il avait été décidé, n'est-ce pas, donc, d'aller, n'est-ce pas, donc, vers la constitution de 1996 qui est née à l'issue de ce dialogue.
Oui, bon, j'ai du mal à vous suivre, Sorel, mais moi, pourquoi êtes-vous si pessimiste?
Oui, mais Juan, je suis si pessimiste parce que l'expérience avec M. Biya nous a tout montré que nous ne pouvons rien espérer, naturellement. S'il avait eu à appliquer la décentralisation depuis la Constitution de 1996, nous n'en serions pas à ce niveau, à ce degré, mais ça, de violence et tout.
Oui, la décentralisation avait été décrétée, mais elle n'est pas effective. C'est ce que vous dites en substance. Sorel, on passe à d'autres auditeurs. Merci d'avoir appelé. Bonne journée à Douala. Tiens, on reste à Douala avec Bertrand. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs de RFI.
Vous attendiez, comme de nombreux Camerounais, l'annonce d'un tel dialogue national inclusif.
Oui Juan, ce dialogue, il est salutaire et moi je comprends l'opinion des uns et des autres. Mais je voudrais dire que dans toute situation de crise, il faut rester toujours ouvert à une issue favorable. Et je crois que le président Paul Biya, lors de ce discours, a tendu la main au peuple parce qu'il a compris en fait que la solution de cette crise, c'était la volonté du peuple, à ce que le peuple s'exprime. D'où la nécessité de ce dialogue qui va permettre à tous les Camerounais, pas seulement les anglophones, de toutes les sources et de tous les horizons de pouvoir s'exprimer afin qu'on puisse sortir de cette situation qui nous pénalise tous.
Alors il y a une inquiétude déjà exprimée depuis le début de l'émission et Como, qui est à Londres, nous dit avec qui le gouvernement va-t-il négocier si Ayouk Tabe et ses compagnons sont en prison et condamnés à vie?
Oui, Juan, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que c'est pas Ayouk Tabe qui a commencé cette crise. Il y a eu beaucoup de récupérations dans la gestion de cette crise. Cette crise est partie des syndicats, comme un des prédécesseurs auditeurs l'a dit.
Oui.
Ayouk Tabe, ils sont venus juste à un moment où le gouvernement aurait dû prendre les choses au sérieux en posant la question de sécessionnisme ou de la partition du Cameroun anglophone et autres. Donc, pour moi, ce n'étaient pas des personnes légitimes ou légales par rapport à cette situation.
Bah là pour le coup, Ayouk Tabe fait partie de ces personnes qui ont pris les armes. Au départ, effectivement, au début de la crise en 2016, c'était une crise sociale, avec des enseignants, des juristes, des avocats, qui avaient des revendications que Yaoundé n'avait pas jugé bon de prendre en compte. Et ensuite, on a vu que la situation s'est envenimée, et il y a eu à ce moment-là des représailles, des hommes qui ont pris les armes, et on est passé d'une crise sociale à un conflit armé.
Oui, on aurait évité cela si le gouvernement avait pris l'ampleur de la chose et avait mesuré les conséquences. Le coup est long terme. Aujourd'hui, moi, je vous dis, en fait, le discours de Paul Biya voulait tout simplement dire qu'aujourd'hui, les personnes qui représentent, les personnes avec lesquelles on doit discuter, c'est le peuple camerounais. Et le peuple camerounais est la personne légitime et légale parce que c'est lui qui lui a donné le pouvoir de pouvoir décider du devenir de notre pays. Et l'organisation doit s'organiser autour de cette commission qui ne doit pas être juste basée autour de l'État, c'est-à-dire par le Premier ministre, mais elle doit se faire autour de toutes les constituantes de la société.
C'est ce qui est annoncé, un dialogue inclusif autour de la table. Il y aura toutes les différentes couches de la société, y compris des représentants des forces de défense et de sécurité, ainsi que des représentants des groupes armés. Merci Bertrand, j'accueille François. Bonjour.
Bonjour, bonjour Juan.
Toutes les conditions ne sont pas réunies pour la réussite du dialogue, c'est ce que vous disiez au Standard.
Oui, déjà, permettez que je dise que le langage des hommes est constructeur, le dialogue des hommes est constructeur, le langage des armes est destructeur. Donc toutes les conditions ne sont pas réunies, effectivement, il faudrait bien que toutes les parties soient suffisamment représentées, surtout les populations qui ont exprimé le plus de difficultés et pour lesquelles ce langage, ce dialogue est convoqué. Alors, comment est-ce que pour cela pourrait aboutir si les leaders même, ceux qui ont porté les armes, ceux qui ont manifesté d'une manière ou d'une autre des conditions, un certain nombre d'exigences, si elles ne sont pas disponibles? Comment comprendre que celui qui arrive deuxième à l'élection présidentielle au Cameroun et qui a une audience suffisante ne puisse par exemple pas participer étant incarcéré? Je pense qu'il faut déménager des conditions suffisantes pour que la nation se retrouve et qu'elle puisse discuter de ses problèmes pour un avenir meilleur.
Vous pensez qu'une personnalité comme Maurice Comteau, opposant, arrivé deuxième, vous le disiez, à la présidentielle il y a maintenant un peu plus d'un an, qui est donc en prison, vous pensez que Maurice Comteau a sa place dans ce dialogue national concernant la crise anglophone?
Vous avez bien dit dialogue national, et il devait être sans exclusive. Donc Maurice Comteau, qui est un citoyen et qui, sur la base d'un certain nombre d'éléments, a une certaine audience sur le plan de la République, pourquoi devrait-il être exclu, M. Rouen?
Je posais une question, simplement. Merci François, bonne journée à Yaoundé. On s'excuse pour les petits problèmes de réseau téléphone, ils sont récurrents avec le Cameroun, ces problèmes. Martial, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Il suffit que je dise ça pour que le réseau soit excellent, voyez. Tant mieux. Vous êtes à Yaoundé, on vous écoute. Que pensez-vous de cette proposition du président Biya?
Bah écoutez, Juan, je pense pour ma part que en 3 semaines, organiser un dialogue national va être un petit peu difficile quand même, parce que il faut consulter tout un tas de monde et puis il faut être à l'évidence de pouvoir joindre toutes les personnes, comme vous avez dit, ce sera un dialogue inclusif et non exclusif. Alors, pour ma part, il y a des Camerounais de la diaspora, il y a des Camerounais de l'intérieur. Réunir tout ce tas de monde reste quand même un petit bémol en 3 semaines.
Ce sera donc un défi logistique qu'il va falloir relever. C'est vrai que le calendrier est serré, mais au-delà de ces problèmes logistiques, vous y croyez, vous, à ce dialogue?
Bien, c'est une très bonne question parce que déjà le fait qu'il l'admette, qu'il y ait un dialogue national est déjà un pas en avant. Et donc ce dialogue va être pour les Camerounais en tout cas une attente très importante parce que nous fêtons tous un retour à la paix.
Mais vous attendez la paix, mais vous personnellement, parce que vous parlez au nom de tous les Camerounais, mais moi ce qui m'intéresse c'est votre point de vue à vous, Martial. Qu'attendez-vous concrètement? Comment on peut arriver à la paix? Que faut-il conclure, négocier? Quel compromis?
Il faudrait d'abord mettre un premier constat devant qui est le pardon du Rwanda. Parce qu'il faut d'abord que l'État pardonne à tous ceux qui ont été indexés de manière directe dans ce conflit. Moi, pour moi, ma part serait qu'il y ait franchement un pardon sur le plan national. Ça veut dire que les acteurs qui ont été incarcérés pour ce problème devraient logiquement, pour ma part, être dehors et qu'ensemble avec ces personnes, qu'il y ait donc une assise.
Oui. En tout cas, Paul Biya a réitéré mardi soir son offre de pardon aux séparatistes qui déposeront les armes. Voilà qui est dit. On prolonge le débat demain, si vous le souhaitez, évidemment. Vendredi, c'est la libre antenne. Vous commenterez l'actualité de votre choix. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, appelez-nous dès maintenant. Le Standard reste ouvert et tous les sujets nous intéressent.
Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous a proposé appel sur l'actualité.
Dans 10 minutes, priorité santé présentée ce matin. matin par Raphaël Constant. Bonjour.